Étant donné la notoriété du vélo et la popularité du vélo en Italie, donc à un moment donné, il y a un de nos collègues qui a fait un travail rigoureux pour montrer comment les deux grands champions italiens qui étaient Gino Bartali et Fausto Coppi, comment leur...
C'est le monde de Camillo.
Une même pratique était codée de manière totalement différente.
Bonjour pour ce nouveau rendez-vous de Pearl Harbor avec les complicités de Yann Le Tailleron, Alice Bonamy et Laurent Messager. Je reçois Jean-Michel Faure et Charles Suau, professeurs de sociologie à l'Université de Nantes, auteurs de La raison des sports, sociologie d'une pratique universelle et singulière, paru aux éditions Raison d'agir.
Gino le Pieux, qui était reçu par le pape et tout ça, et Fausto Coppi, qui avait divorcé et qui était communiste, c'était la main droite et la main gauche, quoi, je veux dire. Donc au-delà du vélo et au-delà de la performance physique, ce qui fait la différence entre les deux champions, c'est le codage symbolique dont leurs exploits sont l'objet.
Par cette première partie de la fonction des sports, c'est la fonction affichée. Le sport, c'est pour se détendre, etc. Et là, notre idée, notre thèse, c'est de montrer que cette fonction ludique est lourdement chargée de fonctions sociales, d'attentes sociales. Et ça n'est pas un hasard, parce que si le corps, c'est l'objet même d'incorporation, de morale, de vision du monde, etc., c'est pas un hasard si toutes les grandes institutions ont tout de suite compris l'enjeu qu'il y avait à s'emparer du corps pour le coder à leur manière. Donc l'école l'a fait, en tout premier, l'Église et bien évidemment l'État. Donc toutes les grandes institutions dont la fonction, justement, c'est de donner des visions du monde le plus homogène, mais le plus fortement imposé, se sont emparées du sport comme d'une pédagogie par corps extraordinairement puissante, justement, pour imposer la vision vaticane, la vision communiste, la vision rouge, la vision droite, etc. Ça a été une bagarre incessante, justement, par corps interposé, je dirais par sport interposé ou par club, on verra après.
Alors, ce qu'il y a de formidable sur l'Angleterre, c'est que, en fait, ce qui est le sport national joué dans les public schools et qui symbolise vraiment la Britishness, vraiment l'anglicité, c'est le cricket, un jeu très lent, les tenues, on ne se bouscule pas, on ne se heurte pas, on court très paisible et tout ça. Et à ce moment-là, dans les public schools, il y a une prolifération d'écrits, de littérature, de poèmes et tout ça, pour célébrer le cricket comme étant le jeu national et la comparaison sans arrêt entre le terrain de cricket et les champs de bataille. Au moment de la construction de l'Empire britannique. C'est-à-dire, c'est cette symbolisation-là, et ce qu'on apporte au monde, c'est le cricket, un jeu paisible et tranquille, avec une violence absolument épouvantable.
L'exemple du cricket, on peut aussi le prolonger quand il est exporté.
Autre hypothèse. Parce que là, c'est une autre hypothèse liée à l'incorporation. C'est que quand on apprend par corps, le corps a ce pouvoir extraordinaire de pouvoir exprimer dans le même geste des significations multiples. Bon, par exemple, le jeune Indien qui apprend le cricket, et comme on voit sur les photos, on voit les équipes de cricket avec le turban, etc. Quand il apprend le cricket, il apprend un sport anglais, le sport du domino, mais il le joue avec l'uniforme local, donc promis en tant que public school indienne à l'élite, d'être membre de l'élite locale. Et en même temps, sur le plan mondial, il participe de cette Britishness. C'est incroyable le nombre de significations qui sont véhiculées et qui sont incorporées, ce qui fait que, à la fois, il y a eu des résistances à la colonisation, il ne faut pas exagérer, mais en même temps, la colonisation anglaise par le sport a été d'une puissance extraordinaire parce que justement, les colonisés pouvaient concilier à la fois leur culture locale, la Britishness, la notion de l'Empire, etc.
Bon. Alors, il interprétait aussi le jeu.
Alors ça, c'est autre chose.
Un exemple extraordinaire. Quoi, la subversion, c'est-à-dire que les Anglais ont imposé ça, et en Nouvelle-Guinée, et en fait, ils sont heurtés à des résistances. Et les résistances sont passées par la transformation du jeu, par imaginer un autre jeu qui, sous le nom de cricket, fausse complètement à la fois les règles, les Anglais avaient interdit des manifestations qui étaient les rapports d'hostilité et les guerres fratricides continuelles entre les différentes tribus. Donc, ils se sont mis à s'affronter en cricket en transposant dans le jeu toutes les fonctions qu'avaient les échanges cérémoniels entre les tribus. Et en mimant lors du jeu les batailles guerrières qui les opposaient, tout ça. Donc, c'est assez intéressant, c'est une espèce de subversion du sens qu'on voulait leur imposer à travers la pratique du jeu britannique.
Et la finalité n'est plus le jeu, en fait.
Ce qui est formidable dans le cas du cricket trop brillandais, c'est que, justement, les intellectuels locaux, on a utilisé un film fait par un Américain qui est tout à fait intéressant, a tout de suite compris que le jeu n'était pas que le jeu. C'est-à-dire que le jeu sportif, c'était un jeu hautement politique, et en disant on veut subverser, en toute connaissance de cause, avec une clairvoyance politique étonnante, justement, où il s'est pas laissé prendre par l'universalisme, par la Britishness, au contraire, la Britishness, on n'en veut pas. Donc, alors on met autant de participants qu'il y a de jeunes dans le village, donc il y en a 50 d'un côté, 49 de l'autre. Bon, c'est extraordinaire.
Et alors, en fait, dans les échanges cérémoniels de ces types de sociétés, ça obéit à une logique qui est mise en évidence par Marcel Mauss, c'est donner, accepter et rendre plus. Et en fait, ils ont introduit dans le jeu ça, c'est-à-dire l'équipe qui apporte des cadeaux, ceux qui les reçoivent rendent encore plus, etc. Donc c'est la logique des rapports cérémoniels qui s'impose au détriment des rapports purement ludiques qui sont attachés au jeu.
Le jeu est un prétexte à tous ces échanges.
À perpétuer les échanges qui font la réalité de ces sociétés.
Donc pour ceux qui pensent que le sport peut être qu'un outil de domination tous azimuts, ça peut être aussi des pratiques de résistance. Bon, peut-être plus marginal, c'est possible, probable même, mais...
La capoeira, c'est un peu ça, non?
Je sais pas.
C'est quoi?
C'est au Brésil, là, ce qu'avait...
C'est un art martial,
La danse, mais actuellement... Ces jeux de concurrence... Actuellement, par exemple, le judo est en train d'être fortement concurrencé par les pratiques beaucoup plus engagées physiquement, etc. Autrement dit, c'est un lieu de bagarre infini, parce que justement, il y a ces enjeux sociaux. Donc on peut multiplier tous les exemples qui sont des exemples de concurrence. Et c'est parce qu'il y a des visions du monde derrière que les conflits sont aussi forts.
On ouvre le deuxième chapitre, les règles sociales du jeu sportif.
Alors,
ne vous battez pas.
Non. Alors, dans la deuxième, c'est une autre manière d'entrer dans cette notion, toujours le même thème finalement, comment le social rentre dans le jeu social rentre. Bon. Donc là, c'est de descendre à un niveau plus concret, si on veut, plus près de la pratique réelle, c'est-à-dire au niveau de la pratique en club. Et donc, dans cette deuxième partie, même si la première partie commence par le Racing Club, qui est un club très huppé, etc., on a fait une large place aux pratiques dites de loisirs, plutôt basiques. Et alors là, l'idée, c'est que, pour aller vite, deux idées. Premièrement, un sport n'a pas de sens en lui-même. Un sport n'a de sens que, justement, parce qu'il y en a d'autres à côté qui le concurrencent, etc. Bon, par exemple, comme j'ai travaillé sur le squash, l'arrivée du squash à Nantes, le squash, je dirais, a fait vieillir le tennis. Bon, parce que les joueurs de squash qui, en 20 minutes, étaient rouges écarlates, disaient « Oh là là, le tennis, ce sport de Bourges, il faut une heure et demie pour entrer. » Bon.
Donc, sport de vieux.
Donc, c'est relationnel, quoi. Bon. Et si maintenant on prend un sport, ce sport, il est différencié suivant les lieux de pratique. Donc on s'est beaucoup intéressé au club comme lieu de pratique, comme lieu de différenciation sociale du jeu sportif. Alors, bon, là, par exemple, on a pris... Jean-Michel avait travaillé sur le racing, sur le tennis. Moi, de mon côté, donc voilà la rencontre de deux enquêtes qu'on avait faites chacun de notre côté et qui, ici, se rejoignent. Moi, j'avais travaillé sur l'espace nantais du tennis. Bon, donc, j'avais pris quatre clubs, le SNUC, la raquette d'argent. Alors, ça m'amusait de prendre le SNUC. Il y avait universitaire, même si ça n'avait rien d'universitaire, mais il y avait universitaire dans le mot. Et il y avait la raquette d'argent de l'autre côté. Alors ça, c'est la grande théorie de Bourdieu. Il y a le capital universitaire, symbolique. Bon, pour m'amuser, je lui ai dit, tiens, je vais prendre ça. Ça va être drôle. Bon. Et le plus fort, c'est que ça marche. c'est que le recrutement social, comment on dit, le sens du placement, c'est-à-dire le sens du placement sportif, mais aussi le sens du placement social. Je vois, c'est un ingénieur EDF qui arrivait à Nantes en disant, moi, je viens de la région parisienne, je suis plutôt d'origine populaire, mais il se trouvait que j'habitais à côté d'un terrain. Donc le tennis, je me le suis approprié le tennis, assez bon. J'arrive à Nantes. Oh, je me dis, le SNUC, non. Je ne serais pas à l'aise au SNUC. Et j'ouvre Ouest France, une pub pour la raquette d'argent. Ah, au deux sens du terme. Un club sans histoire, il venait de se créer. Eh bien, justement, je n'aurais pas d'histoire au club sans histoire. Donc, je vais à la raquette d'argent. Donc, c'est ça, ce sens du placement incroyable. Et tout ça pour aller jouer au tennis. Donc, vous voyez, l'idée de dire le sport pour le sport, ça ne marche pas sociologiquement, quoi. Bon, on joue toujours, on fait toujours du sport pour quelque chose d'autre.
Mais le fait qu'il y ait un champion qui soit adhérent à un club, ça ne modifie pas un peu cet équilibre
hein. Ça peut, mais ça ne renverse pas, autrement dit, la hiérarchie strictement sportive peut jouer. Mais à l'intérieur du sous-public qui est intéressé, un, par ce sport, et deux, qui jouent au tennis pour aller vite, en comptant les points, par exemple. Et tous ceux qui jouent au tennis pour aller papoter avec le copain, la copine, cuqui, un sportif, il le sait, à la limite, il ne le sait même pas. Donc, c'est pour dire qu'il y a une extrême diversité dans la manière de pratiquer, et le club est un angle d'attaque extraordinaire.
Incontournable. Voilà. Puis en plus, ça fait sauter une idée encore très simpliste, c'est qu'il y a des caractéristiques intrinsèques d'un sport qui font que le sport est dévolu à tel type de pratiquant. On a des exemples de quelqu'un qui avait fait un livre sur le rugby. Alors il disait le rugby, un sport viril, de contact et tout ça. Oui, mais au sein du rugby, il y a deux types de pratiquants. Il y a ceux qui jouent dans les lignes arrières. Alors là, c'est le rugby inventif, génial, intelligent, etc. Et puis devant, il y a les bourrins qui poussent, les avants, etc. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que derrière ce rugby créatif, inventif, en plein champ, etc., c'est le rugby des classes supérieures, des cadres, des professions libérales et des patrons. Et puis derrière les bourrins, eh bien, c'est les ouvriers. Un dur au mal, le goût pour la castagne et tout ça. C'est une construction purement spéculative de quelques sociologues. Donc en fait, en s'ancrant sur les sports et en analysant l'identité propre des clubs et comment ça se joue à l'intérieur des clubs et comment les clubs se différencient, on fait sauter ça aussi.
On ouvre parce que bientôt va nous rejoindre notre chorale, donc on va ouvrir le troisième chapitre sur la comparaison des systèmes de sport et les cultures nationales, les cultures de l'excellence sportive.
Voilà. Bon, parce que la deuxième partie, il y a cet angle club et c'est l'angle aussi comment les individus, je dirais, se construisent comme individus sociaux, mais par le club. Bon.
Jean-Michel Faure et Charles Suot, professeurs de sociologie à l'Université de Nantes, auteurs de La raison des sports, sociologie d'une pratique universelle et singulière, paru aux éditions Raison d'agir, sont les invités de Pearl Harbour.
On a maintenu par rapport à un public pour que le livre concerne vraiment tous ceux qui font du sport, un sport, comme on dit, éducatif, où on fait... Dans la troisième partie, troisième angle par lequel le social entre, c'est par les États. Et quand ce n'est pas par les États, c'est par les cultures dites nationales. Autrement dit, il y a une dimension, il y a eu un codage national du sport. Pas toujours forcément par les États, d'ailleurs. Ça, bon, la chose est compliquée. D'où cette comparaison. Donc, en plus, nous avons isolé, parce que ça reflétait nos enquêtes, cette notion d'excellence, c'est-à-dire comment construit-on de l'excellence sportive dans 5 pays européens différents. Et justement, la manière de construire des sportifs d'excellence, alors vous me direz, bon, les entraînements, les contraintes d'entraînement peuvent être les mêmes. Mais au niveau de la signification que ça a, là du coup la comparaison a du sens. C'est-à-dire un sportif de haut niveau à l'allemande n'est pas un sportif de haut niveau à la française. Et pour comprendre, et c'est là où il y a tout un détour, pour comprendre comment un sportif de haut niveau à l'allemande n'est pas un sportif de haut niveau à la France, il faut refaire tout le détour par l'histoire, c'est-à-dire comment en Allemagne le sport a-t-il été codé? Il a été codé quasiment comme une pratique culturelle, par laquelle justement les classes moyennes allemandes formaient l'homme allemand dans sa totalité, corps et âme. Alors que nous, c'est un codage beaucoup plus social, soit par l'élite, soit par la domestication du peuple. Bon. Donc, je dirais, ce codage social à la française, ce codage culturel à l'allemande, fait que quand aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on compare les structures, on compare qui sont les sportifs allemands, qui sont les sportifs français, comment ces sportifs vivent leur carrière, finissent leur carrière, etc., eh bien, on retrouve, au niveau des comportements d'aujourd'hui, toute cet ancrage à la fois culturel, historique. Donc là, on fait de la socio-histoire, disons.
Mais le sportif français, c'est le sportif qui s'entraîne dans un club français ou c'est un sportif qui a une carte d'identité française? Parce qu'il y a beaucoup d'exportations, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de...
Oui. Non, mais là, c'est un autre enjeu, là, quand même. Hein, c'est un autre enjeu parce que, en fait, ça a pris une telle ampleur, c'est une telle importance économique, politique, etc., que, en fait, un sportif français, c'est un sportif. C'est très important, ça. Un sportif français, c'est quelqu'un qui représente la France en étant intégré dans une équipe nationale française.
Et il est de moins en moins formé dans les clubs. Ça, c'était jusqu'aux années 60, où certains clubs formaient l'élite. Bon. Et de plus en plus, ça, c'était la réorganisation des années 60-70, où la formation de l'élite a été faite dans des centres, soit régionaux d'abord, et nationaux. Donc il y a eu, une nationalisation.
C'est spécifique français, hein. Je veux dire, pendant très longtemps... Même, par exemple, si on prend quelque chose sur le rugby, sur le tournoi des cinq nations, la bataille des Anglais contre la suspicion du professionnalisme à la française, c'était de dire qu'on ne pouvait pas réunir l'équipe nationale. Si l'équipe nationale avait des stages, etc., ça, en Angleterre, ça ne se faisait pas. Cette emprise de l'État directement du marché par ce biais-là, des stages de formation, les Anglais immédiatement accusaient les Français de professionnalisme.
Pour y avoir une autre entrée qui serait celle de la télévision ou des écrans général, qui bouscule un petit peu.
Autrement dit, notre livre n'épuise pas et de loin.
Il y aura donc, d'autres chapitres.
Mais par contre, dans la conclusion, parce que la conclusion ouvre encore un autre débat, c'est la concurrence entre les universalismes que les gens accordent au sport. C'est-à-dire, justement, sport singulier et universel. Universel, comme on l'a dit tout à l'heure, cet universalisme, il a été construit progressivement. Mais le problème, c'est qu'il y a des organisations différentes et concurrentes qui imposent leur idée de l'universalisme. Et là, on a essayé de voir comment se confrontait, par exemple, l'universalisme type CIO, sur base de constructions juridiques énormes, etc., à l'universalisme de type européen, où l'Europe n'a rien trouvé de mieux que de penser l'universalisme du marché pour penser l'universalisme ahurissant. Bon, bref.
C'est bon, on peut s'éclipser pendant quelques instants pour donner la parole à notre chorale, Alice et Laurent. Tiens, c'est intéressant, nos invités se retournent pour...
Oui, mais c'est bien de faire ça à chaque fois, on se voit.
Ouais, ça fait du bruit. Hein,
ça s'entend à la radio.
Ça s'entend, voilà.
Bon, alors on change complètement de sujet.
Alice et Laurent.
Voilà, moi c'est Alice, lui c'est Laurent. C'est pas l'inverse. Alors on change complètement de sujet pour parler du comique troupier. Est-ce que vous savez ce que c'est que le comique troupier? À peu près. Donc c'est un genre musical, et aussi de sketch, qui a été inventé par un monsieur, selon Wikipédia, hein, qui s'appelle Éloi Ouvrard, et qui a mis ce style-là à la mode à la fin du 19e dans les cafés-concerts, qui consistait à chanter des petites chansons et faire des monologues habillés en uniforme de soldat de première classe. Et généralement, ces textes avaient un rapport avec l'armée. Donc, j'ai eu envie, on a eu envie de vous faire découvrir le comique troupier.
Je suis prêt.
Bon, monsieur Laurent Messager, évitez de trop toucher à votre micro, ça fait du bruit.
D'accord.
Vous êtes indiscipliné.
Là, c'est la discipline militaire aujourd'hui.
Oui, mais de toute façon, je suis un peu sauvage, comme la chanson que vous avez ratée aujourd'hui, qui était « Allez, allez, les Canaries ». On a pensé que le comique troupier était plus de dans nos âges, thème. Messieurs. Et sachez que c'est Alice qui nous l'explique.
Oh, on aurait peut-être préféré les Canaries. On
dernièrement, ministre de la guerre, pour que la France ait des hommes beaux et forts, a décidé que tous les militaires à la caserne devraient faire du sport. Depuis, je vous assure, on cultive journellement notre musculature et l'on peut dire fièrement, du bout des pieds à la tête, on est des athlètes, des chevilles jusqu'au tif, on est des sportifs. Dans la chambre et dès le matin, caporal pour nous mettre en train.
Nous fait sauter pendant une heure, en hauteur et puis en longueur.
Y'a des camarades qui tiquent, mais moi je trouve le saut hygiénique.
Ensuite, pour changer de boulot, chacun lance le javelot.
C'est plus sain et plus naturel que de lancer l'eau de javel.
Puis quand on a soif en été, au gymnase, on va s'entraîner.
On lève de gros poids en l'air, car les gros poids ça désaltère.
L'hiver, dans la cour, au portique, chacun fait de la gymnastique.
À la barre fixe, si vous me voyez, c'est moi qui suis le plus calé.
Je me suspends par le menton, je fais 228 tractions.
Avant-hier, sur cet appareil, j'ai même fait le grand soleil.
Mais voilà que mon pantalon, il s'est fendu de tout son long.
En fête de soleil, quelle infortune! Les copains, ils ont vu la lune.
Du bout des pieds à la tête, on est des athlètes.
Des chevilles jusqu'au tif, on est des sportifs.
J'ai un copain, chaque jour plein d'enthousiasme. Il monte à cheval pour devenir jockey. J'en ai un autre, à table il a des spasmes. Il fait comme ça, hips. C'est le champion du hockey. L'adjudant plein de zèle, du ski est entiché. Et l'hiver quand il gèle, sans cesse il nous fait skier. Du bout des pieds à la tête, on est des athlètes. Des chevilles jusqu'au tif, on est des sportifs. Dimanche on s'en va sur une piste, prend de part aux courses cyclistes. Avec mon copain Nicodème, nous formons équipe en tandem.
Comme c'est lui qui se met devant, moi je suis à l'abri du vent.
C'est la bonne place en un mot, mais faut pas qu'il bouffe des faillots.
Avec mon copain Bandiface, il fait de la lutte et du pancras.
Pour me gagner, c'est une combine, il me rentre ses genoux dans les narines.
Moi pour le clouer au tapis, je lui fais des torsions de nombril.
Hier, dans la fureur du combat, comme il me portait un coup bas,
je lui ai flanqué d'un air rageur, toutes mes dents dans le postérieur.
Bah vous me croirez si vous voulez, on était tellement emmêlés.
Quand j'ai poussé un cri aigu, c'était dans le mien que j'avais mordu.
Du bout des pieds à la tête, on est des athlètes, des chevilles jusqu'au tif, on est des sportifs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, stop,
stop.
Ouais. Bravo.
Alors, c'est encore signé Alice. Toute l'imagination, toutes les trouvailles, toute la mise
fait,
en scène,
les
décors.
Et alors juste pour les auditeurs, c'est aussi signé donc Gaston Ouvrard, le fils d'Éloi Ouvrard, qui avait inventé ce genre du comique troupier. Et je crois que sans doute tout le monde le connaît ici pour sa chanson « Je ne suis pas bien portant ». Vous savez, j'ai la rate qui se dilate. Ouais. Voilà, c'est ce monsieur-là.
Et normalement, il faut rouler les airs, mais c'est pas vrai. Dans la chambre dès le matin, il y a le copolol pour le mettre en train.
Merci Alice, merci Laurent.
Merci
magnifique.
À vous.
Merci à vous.
Voilà, juste pour conclure, j'ai noté dans les références bibliographiques deux noms, Boli, Papin. C'est de la famille des joueurs de football.
C'est le frère de Basile Boli, Claude Boli, qui était un ami d'Eric Cantona, et qui, grâce à Eric Cantona, a fait sa thèse sur Manchester United. Et il l'a soutenu ici à Nantes. Et là, on a reçu Eric Cantona en cette occasion.
Et Papin, l'autre?
Non. Papin, c'est un local.
C'est un international de gymnastique qui est devenu directeur du STAPS de Nantes, et qui est toujours à Nantes.
Jean-Michel Faure, Charles Sault, merci d'être venu participer à cette émission directe du Café La Perle.
Merci à vous.
On va souligner qu'on peut prolonger cette émission en vous lisant des saines lectures qu'on peut conseiller, et que donc le livre est disponible. On peut l'acheter du côté de chez Vent d'Ouest ou de la librairie Durance. On se dit à bientôt sur les ondes d'Alternance.
À bientôt et merci.
Merci à vous.
Et on va remercier donc notre chorale Alice Bonavie et Laurent Messager. Il y a quand même un personnage important qui est très discret, qui est derrière les manettes. C'est Yann Le Taillon qui a mis en onde cette émission. Merci et absolument. À bientôt.
Merci.